bonsoir et meilleurs voeux à tous dans son discours de présentation des voix à la nation congolaise. Le 31 décembre 2015, le président de la République, Joseph Kabila, a affirmé que 2015 est une année des multiples défis. Joseph Kabila évoque notamment les défis de la consolidation de la paix, de la croissance économique et de l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Concernant le dialogue politique, le chef de l'État a affirmé qu'un consensus devra être trouvé sur des questions qui posent problème. Comment analyser le discours du chef de l'État? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 5 janvier 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Célestin Tunda, secrétaire général adjoint du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Maître Tunda, bonsoir et meilleurs voeux.
Bonsoir madame, meilleurs voeux également.
Merci. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, parti de l'opposition. Bonsoir Monsieur Mamba et meilleurs voeux.
Bonsoir madame, merci par exemple.
Plutôt le professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Professeur Maïndo, bonsoir et meilleurs voeux.
Bonsoir madame, merci et meilleurs voeux à vous aussi.
Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président de la RDC, Joseph Kabila, a affirmé que 2016 est une année des multiples défis. Dans son discours de présentation des vœux à la nation congolaise, lu jeudi 31 décembre à la télévision nationale congolaise, il a évoqué notamment les défis de la consolidation de la paix, de la croissance économique et de l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Au plan politique, il faudra relever les défis de la consolidation de la paix, a déclaré Joseph Kabila. Et selon le chef de l'État, les responsabilités de la classe sociale du pays est ici engagée, car à travers le dialogue politique national et inclusif, un consensus devra être trouvé sur des questions qui posent problème en vue de jeter des nouvelles bases des scrutins prévus par le calendrier électoral global du 12 février 2015, dont aucun n'a été réalisé à ce jour. On écoute un extrait du message du chef de l'État diffusé sur la chaîne nationale.
L'année 2016 sera ainsi une année de multiples défis. Au plan politique, il nous faudra relever le défi de la consolidation de la paix. La responsabilité de la classe politique et sociale du pays est ici engagée, car à travers le dialogue politique national et inclusif convoqué à cet effet, un consensus devra être trouvé sur les questions qui posent problème, en vue de jeter les nouvelles bases de scrutin prévues par le calendrier électoral global du 12 février de cette année, et dont aucun n'a été réalisé à ce jour. Aussi, le défi du développement nous impose-t-il de poursuivre les efforts de croissance économique et de modernisation des infrastructures de base entrepris dans tous les secteurs de la vie nationale. Tous donc, restons constamment mobilisés pour la paix, la cohésion nationale et l'unité de notre pays, gage de la stabilité plus qu'indispensable pour l'émergence de notre cher et beau pays.
C'était là Joseph Kabila, président de la République. Maître Célestin Tunda Kassendi, secrétaire général adjoint du PPRD, c'est un parti politique de la majorité présidentielle. Globalement d'abord, comment vous analysez ces discours du chef de l'État, ces messages de vœux adressés à la population congolaise?
C'est, madame, un très très bon discours. Je crois que nous venons d'en suivre le résumé. La synthèse qui a été présentée par le chef de l'État était bien indiquée. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est tout ce que le chef de l'État pouvait dire. Parce qu'il s'agit d'un message de vœux. Il s'agit d'un message de vœux. Il n'était pas question d'un programme politique ou de propagande. Il a bien abordé les défis majeurs au plan politique, au plan économique, la croissance, les efforts de développement, au plan social, étant donné que tout ce que nous allons consolider au plan politique et au plan économique aura un impact sur la vie des populations congolaises, donc sur le plan social. Et aussi, et c'est ce qui est important, le président n'a pas oublié de dire qu'il va continuer à œuvrer pour un processus électoral crédible et apaisé. Donc, le chef de l'État est resté dans le cadre de ses prérogatives.
Alors, il y a certains observateurs qui estiment que le chef de l'État devrait d'abord commencer par dresser les bilans de son année de sa gestion en 2015 avant de parler des défis.
Oui, mais les bilans, mais je ne sais pas quelles sont ces personnes qui posent une telle question, parce que n'oubliez pas que le président de la République venait de parler il y a quelques jours sur l'état de la nation. Et à cette occasion, il a fait un bilan. Ici, c'était un message de vœux à la nation congolaise, disons aux citoyens congolais. Il a parlé tout simplement pour annoncer en quelques mots au moins ce qui va se faire au courant de l'année que nous sommes en train de commencer maintenant. Donc ce n'était plus le moment de revenir sur ce qu'il venait de dire il y a quelques jours. Parce qu'il a fait un bilan exhaustif lorsqu'il a présenté son discours sur l'état de la nation devant le Congrès, donc les deux chambres réunies.
Alors sur le plan politique, le chef de l'État estime qu'il faudra relever les défis de la consolidation de la paix. Et selon lui, la responsabilité de la classe sociale du pays est ici engagée, car à travers le dialogue politique national et inclusif, un consensus devrait être trouvé sur des questions qui posent problème en vue de jeter des nouvelles bases des scrutins prévus par le calendrier électoral du 12 février 2015, de 7 à 2015, dont aucun n'a été réalisé en ce jour. Est-ce que la consolidation de la paix est liée au dialogue politique que convoque le chef de l'État?
Absolument, madame, absolument. La consolidation de la paix a requis beaucoup de sacrifices de la part de nous tous. Évidemment, en commençant par le chef de l'État lui-même, qui est le premier artisan de la paix que nous aimons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors, il ne faut pas anéantir tous les efforts qui ont été investis pour arriver à la paix chèrement acquise aujourd'hui. C'est pourquoi, pour éviter toute possibilité de conflit, pour éviter tout déchirement possible, n'est-ce pas, à l'occasion des scrutins à venir, il faut que le Congolais se parle. Parce que ça et là, nous suivons, nous entendons. Les gens disent, et particulièrement les gens de l'opposition, parce qu'il faut, il faut appeler chaque chose par son nom, particulièrement les gens de l'opposition qui disent, voilà, il y a encore des problèmes, il y a ceci, nous voulons cela. Et par conséquent, pour apporter des réponses appropriées à toutes ces interrogations, je crois que le meilleur cadre pour le moment, c'est le dialogue. Il faut que les Congolais se parlent, comme nous avons eu l'habitude de le faire par le passé, lorsque nous étions en face d'un problème majeur qui concerne la vie de la nation. Les Congolais se sont retrouvés. Et cette fois-ci, donc, c'est dans cet esprit que le président, en fait, a lancé l'idée du dialogue. Et il demande que nous puissions nous parler avant ces scrutins. Ça va nous...
C'est la condition sine qua non pour avant l'organisation de ces élections, Maître Tunda. Sans dialogue, on n'aura pas les élections?
Non, moi, je n'aborde pas les choses de cette manière-là. Je crois qu'il ne faut pas dire que c'est la condition ou pas la condition. Moi, je vois les choses de manière objective. J'ai dit que nous avons déjà un patrimoine important que nous avons récolté. C'est la paix, la sécurité dans notre pays. Sans compter, évidemment, les autres efforts dans les autres domaines économiques et sociaux. Alors, pour ne pas anéantir cela, et étant donné qu'il y a plusieurs sons de cloche, autant que nous nous mettions autour d'une table pour essayer d'aplanir nos divergences sur ceci ou cela. Et à ce moment-là, nous allons aller de manière tout à fait paisible vers des élections que nous voulons être crédibles et non contestées.
Alors, on sait qu'il y a une frange de l'opposition qui s'oppose à la tenue de ces dialogues. Au cas où, où cette opposition campait sur sa décision, qu'est-ce qui arriverait? Vous allez organiser le dialogue sans cette frange de l'opposition?
Je crois que cette frange de l'opposition a tort. Parce que le dialogue en soi, c'est quoi? Le dialogue, ce n'est pas un mécanisme, disons, destructeur. Ce n'est pas un mécanisme pour causer du tort à l'opposition. Au contraire, nous voulons parler des problèmes qui concernent le Congo. Nous voulons aborder, n'est-ce pas, des questions essentielles qui touchent à l'intérêt, n'est-ce pas, de notre pays et de notre peuple. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui prétend pouvoir parler au nom de la population peut refuser d'aller où on aborde le problème concernant l'intérêt du Congo?
Merci, maître Tunda. Merci, maître Célestin Tunda. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, parti politique de l'opposition. Globalement, comment vous avez analysé ce message de vœux du président Kabila?
Bon, je vous remercie pour la parole. J'ai suivi avec la plus grande attention son Excellence Monsieur Tundu et j'ai aussi suivi le discours du chef de l'État que nous considérons, nous, au niveau de l'opposition, comme étant, entre guillemets, le dernier, du moins dans ce format-là. Parce que c'est son dernier mandat et donc il n'aura plus l'occasion de s'exprimer. Et entendu en tant que tel, je pense que c'est un peu du raté. Je dis que c'est du raté parce que la population attend bien de choses. Le chef de l'État part de la consolidation de la paix. Ça veut dire qu'il est à la recherche de la paix, où il veut prévenir des conflits. Mais je vais poser une question qui est simple. La dernière fois, ici à Kinshasa ou au Congo, qu'il y a eu des conflits, en dehors de ce qui se passe à Beni, là où on voit bien que l'échec de l'État par rapport à la sécurisation des biens et des personnes est patent, en dehors de ce qui se passe à Beni, la dernière fois qu'il y a eu des problèmes dans ce pays, c'était en janvier 2015. En quels termes se sont posés ces problèmes? En des termes très clairs de non-respect ou de couplage du recensement à l'organisation des élections présidentielles. Donc le chef de l'État en ce moment-là savait quel était le problème qui était posé et pourquoi les gens étaient dans la rue et pourquoi nous avions fait une semaine sans aller au travail. Donc le chef de l'État avait déjà identifié ce problème. Et comme le chef de l'État était à la recherche de la paix, il devait d'abord apporter de la quiétude et surtout une réponse à ce problème-là qui avait été posé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre janvier 2015 et au jour d'aujourd'hui, il y a eu amplification de la majorité en termes communicationnels sur la non-évidence que le chef de l'État va respecter son mandat, ça veut dire son dernier mandat. Vous avez beaucoup de personnalités dont je ne vais pas citer le nom qui sont passées, qui sont montées au créneau pour expliquer que nous avons besoin de temps, il faut que nous dialoguons, nous sommes dans l'impossibilité d'organiser des élections, alors que nous savons tous très bien que c'est un montage artificiel, d'autant plus que la CENI n'a pas reçu les moyens nécessaires. Nous savions aussi que nous avions la tripartite au niveau de la CENI, que le chef de l'État, s'il voulait vraiment régler des problèmes électoraux, pouvait venir s'inviter à cette CENI, il n'est jamais venu, qu'il convoque un dialogue dans lequel il fait venir des chefs coutumiers, je ne sais pas comment un chef coutumier peut parler de la proportionnelle ou peut traiter une question électorale, et qu'il présente le dialogue comme une contrainte. C'est-à-dire que le président de la République est en train de nous dire, soit on dialogue, soit nous n'avons pas de paix. Vous savez pour qui est la paix dans ce pays, qu'est-ce qu'il faut? Mais nous disons simplement dans l'opposition que pour qu'il y ait de la paix, il faut qu'on respecte les lois.
Mais puisque vous-même vous reconnaissez qu'il y a des problèmes, Jean-Jacques Mamba, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller parler de ces problèmes qui bloquent
Madame,
le processus électoral?
Madame, lorsque vous avez la responsabilité de la gestion de l'État et que vous créez un problème vous-même, vous ne pouvez pas être la solution à ce problème. Vous convenez avec moi que lorsque la CENI reçoit 17% de son budget, que le gouvernement a été instruit, lui a été assigné des missions d'organiser le processus électoral sur une certaine durée en prévoyant des montants chaque année pour organiser les élections, que ce gouvernement ne le fait pas, que le chef de l'État ne sanctionne pas un gouvernement qui ne respecte pas, ne fait pas respecter la loi, vous créez un problème et vous invitez les gens pour résoudre un problème que vous avez créé, alors que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'en novembre 2016, vous avez la solution.
Mais vous pouvez apporter des propositions.
Les propositions ont été apportées pour des questions électorales. Le chef de l'État n'est pas habilité à traiter les questions électorales. Nous nous sommes adressés à l'organisme qui est la CENI, avec des propositions correct, c'est-à-dire qui tenait compte des 23 contraintes qu'a présenté la CENI. La CENI ne nous a pas répondu, elle s'est adressée à la Cour constitutionnelle dans une forme de triangle pour permettre au chef de l'État de nommer des commissaires spéciaux. Toutes les revendications par rapport aux questions électorales ont été soumises à la CENI. La CENI ne s'est jamais adressée à l'opposition par des contre-propositions que de s'adresser directement à la Cour constitutionnelle, de créer un triangle et de permettre à ce que la Constitution soit violée au travers de la nomination des commissaires spéciaux. Donc je ne vois pas comment.
Le chef de l'État c'est possible d'aller aux élections.
Je dis ceci, madame. Nous avons un dialogue curatif et un dialogue préventif. En 2011, le chef de l'État avait la possibilité de faire un dialogue curatif parce qu'il avait constaté du haut de sa chair que les élections étaient chaotiques. Il a même dit lui-même qu'il y avait des irrégularités. Mais comment le chef de l'État et son gouvernement ont réagi? Alors que l'opposition avait la main tendue pour régler ces questions en amont, notamment celle de l'organisation des élections des gouverneurs et tout ça, le chef de l'État, par l'entremise de son ministre de l'Information, nous a dit que les institutions fonctionnent, donc à l'époque M. Tshisekedi était mis en résidence surveillée, et qu'il n'y avait pas lieu de dialoguer. Or, s'il y avait dialogue pendant cette période-là, nous aurions préparé les élections, nous aurions réglé toutes ces questions en amont, et on n'aurait pas accumulé jusqu'en 2016 la situation que nous avons aujourd'hui. Donc le chef de l'État qui était dans une position confortable parce qu'à l'époque il avait 5 ans devant lui n'a pas jugé utile de discuter avec l'opposition. Mais maintenant qu'il lui reste une année, il présente le dialogue comme une pièce de monnaie contre laquelle il dit écoutez, vous mangez ou vous êtes affamé, on vous donne de l'argent, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Si vous ne le prenez pas, vous êtes affamé, si vous le prenez, vous mangez. Ce n'est pas comme ça qu'on présente le dialogue. Et je vais terminer par ceci, madame. Il y a une partie de l'opposition qui va au dialogue. Il y a une partie de la société civile qui va au dialogue. Il y a la majorité qui veut y aller. Le chef de l'État peut organiser son dialogue avec les personnes qui veulent y aller. C'est très simple.
Mais il veut associer tout le monde.
Mais en 2016, nous avons eu des concertations nationales qui se voulaient inclusives, mais tout le monde n'est pas parti. Il y a eu des résolutions que le chef de l'État et son gouvernement ont eu de la peine à faire réaliser. Nous, MSC, qui étions partis à ces concertations, nous avions été critiqués. Cela n'a pas empêché que les concertations se tiennent et qu'elles aillent jusqu'au bout et que les résolutions soient pondues. Je veux dire qu'il y a eu 600 ou 700 résolutions qui sont sorties. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous acceptons
le
dialogue.
Mais
que le chef de l'État organise le dialogue avec les personnes qui veulent aller au dialogue, mais nous disons qu'aucune résolution de ce dialogue ne peut sortir du cadre constitutionnel ou institutionnel actuel. Et nous, de l'opposition qui ne voulons pas aller au dialogue, ben, si les résolutions concordent ou s'accommodent avec les lois actuelles, nous allons nous plier. Mais si les résolutions de ce dialogue veulent créer un nouvel ordre institutionnel ou que le dialogue va devenir une nouvelle institution, en ce moment-là, nous allons dire au chef de l'État non, nous n'acceptons pas cela. Donc, le dialogue peut se tenir dans de bonnes conditions, nous allons suivre le dialogue de près et nous allons participer peut-être à distance, mais dans le sens d'améliorer le respect des lois et non dans le sens de créer des situations, exceptionnelles.
Merci, M. Mamba. Professeur Alphonse Mahindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, comment vous avez analysé de façon générale le discours du chef de l'État, son message de vœux à la nation?
Oui, merci beaucoup, madame. Donc, je pense que il y a plusieurs lectures possibles de ce discours du chef de l'État qui, il faut le souligner, reste malgré tout un message de vœux à la nation. Donc, il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Et en tant que message de vœux à la nation, le chef de l'État n'a pas adressé son programme, à faire son bilan, etc. Donc, il adresse un certain nombre de souhaits à la nation, au peuple congolais, à ses compatriotes. Alors moi, ce que je pourrais dire, je pense qu'il y a deux éléments essentiels que je voudrais souligner ici par rapport à ce message des vœux. Le premier élément que je voudrais souligner ici, c'est que je vois là que le chef de l'État s'est montré très volontariste pour congédier un certain nombre de défis auxquels la nation fait face ou fera face, selon son entendement, l'année prochaine. Donc plutôt cette année. Il demande donc qu'on puisse faire ça. Et il fait bien de rappeler qu'il y a des défis auxquels la nation va faire face cette année, puisque si on se réfère par exemple à la théorie des défis et des réponses de Joseph Arnold Toynbee, les civilisations ou les sociétés, les nations évoluent, si vous voulez, grâce à leur capacité à répondre aux défis qui se posent à eux. Quand une civilisation n'arrive pas à faire face aux défis qui se posent à elle, eh bien, elle meurt. Et donc, c'est pour ça qu'il parle du fait que les civilisations se suicident, mais ne sont jamais tuées, quoi. Donc, Si vous êtes capable de résoudre vos problèmes, de lever vos défis, alors vous allez survivre et ce sera votre apogée. Sinon, vous allez décliner et vous mourrez. Deuxième élément que je voudrais souligner de manière générale par rapport à ce message de vœux à la nation du chef de l'État. Donc là, je vois que le chef de l'État, il a rappelé aussi, il a essayé de montrer qu'il reste encore, il est encore et toujours aux commandes du pays et qu'il entend faire son travail, exercer son mandat jusqu'à son terme de 5 ans sans coup ferré. Puisqu'il y a beaucoup de ces détracteurs qui tentent de le diffaire pour dire qu'il doit se prononcer, pour finaliser, pour dire qu'il se présente ou ne se présente pas. Donc il s'est montré, si vous voulez, assez combattu pour dire qu'il ignore tout cela. Il veut accomplir son mandat. Il y a des problèmes qui se posent. Il veut résoudre ces problèmes-là. Et même s'il y a un certain nombre de, si vous voulez, de défis qui ont été relevés dans ce discours, ces défis-là, à mon avis, ce sont des défis qui sont imputables en partie, si vous voulez, au gouvernement et aux institutions qui sont en place, qui n'ont pas été à mesure de les prendre à bras le corps dans les années qui ont précédé, dans les années précédentes. Donc tout ça, si vous voulez, je dirais, donc c'est tout à son honneur. Il a essayé de se mettre un peu au-dessus de la mêlée, en se présentant comme le président de tous les Congolais qui présente des vœux à tout le monde. Alors, on aurait peut-être, si vous voulez, on a vu le défi, mais il manque quelque chose qui laisse un arrêt-goût d'insatisfaction, c'est une esquisse, si vous voulez, de réponse à ces défis-là. Alors, pourquoi n'a-t-il pas évoqué aussi quelques esquisses, hein, si vous voulez, de réponse à ces défis énormes, hein, qu'il a évoqués? Parce que peut-être que, sans doute, il a voulu laisser cette possibilité de chercher ensemble des solutions, hein, aux institutions de la République, aux Congolais, pour peut-être nourrir après sa pensée et son action, ne pas vouloir imposer. Voilà peut-être globalement ce que je pourrais dire dans un premier temps par rapport à ce discours de message de vœux à la nation.
Alors, sur le plan politique, le chef de l'État estime qu'il faudra relever le défi de la consolidation de la paix, et cela à travers le dialogue politique national et inclusif.
Oui. Bon, alors, si vous voulez, c'est bien, c'est une idée de dire il faut consolider la paix. Bon, je ne pense pas que les dialogues que l'on convoque soient une solution pour consolider la paix. Qu'est-ce qui a menacé la paix au Congo? Qu'est-ce qui menace la paix au Congo? Quels sont ces vrais problèmes-là? On connaît les problèmes qui menacent véritablement la sécurité, notamment à l'Est, et dans d'autres endroits du pays. Il faut donc les attaquer. Ces problèmes sont aussi bien d'ordre politique que sécuritaire, et ces problèmes, pour l'essentiel, doivent être, si vous voulez, pris en charge par les institutions qui existent. On a le gouvernement, on a le parlement, on a la CNI, on a l'armée, on a la police. Ces institutions-là ont pour mandat de résoudre les problèmes qui se posent au pays pour consolider la paix. Et je rappelle que on ne peut pas consolider la paix, si vous voulez, dans ces pays en un an ou dans un dialogue. La MONUSCO, qui est donc une mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, donc pour consolider la paix qui a été acquise notamment grâce à la première action de la MONUC, ça fait 5 ans aujourd'hui, hein, c'est depuis juillet 2010 par la résolution 1925 qu'elle a été mise en place. Nous sommes aujourd'hui en 2016 et il n'y a pas toujours de stabilisation comme on l'espérait. Voyez-vous, enfin qu'on n'a pas réussi, c'est pas en un dialogue qu'on le fera. On a déjà eu plein de dialogues. À mon avis, la solution doit être trouvée ailleurs pour consolider la paix.
Alors, ailleurs, ou par exemple, professeur.
Oui. Donc, si vous voulez que je donne quelques pistes de solutions, pour moi, si on veut véritablement consolider la paix, un élément fondamental, c'est d'abord la promotion de la démocratie. Voyez-vous? Donc, si on promeut la démocratie, en laissant aussi l'expression des droits, des libertés, en respectant les droits de l'homme, en développant une culture de la paix, alors là, on peut aller vers une véritable, si vous voulez, consolidation de la paix, parce que les vrais problèmes politiques viennent de là.
Merci, professeur Maindo. Maître Tunda, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo, au Nord Kivu.
Je me viens à Butembo, province du Nord Kivu. En analysant le discours du chef de l'État du 31 décembre dernier, C'est comme si le chef de l'État nous a présenté rien que les défis et les plans de dialogue et pour oublier la tenue des élections en 2016. À mon avis, je ne sais pas par quelle baguette magique que le président va-t-il améliorer les conditions sociales des Congolais alors que la RDC a un maigre budget pour pallier aux multiples défis cités. En plus, le président insiste toujours sur le dialogue alors que l'ordonnance qui fixe les modalités de dit dialogue à 10 jours et la participation des opposants pose encore problème. Faut-il croire aujourd'hui que c'est le dialogue qui est la priorité en 2016 quand nous voyons la campagne de soutien au dialogue presque partout au détriment de sensibiliser le peuple sur des élections de 2016?
Réaction, Maître Tunda.
Oui, par rapport à la réaction de notre ami de Boutembo, je crois que le professeur qui est intervenant dans cette émission a répondu à la question. Il s'agissait d'un message de vœux. Et suivez les différents messages de vœux. J'ai suivi en France, le président Hollande doit en prononcer, je crois, une douzaine, d'après ce que j'ai suivi, au corps diplomatique, au corps constitué, à l'armée, à différentes catégories, en fait, de la nation. Alors, c'est pas dans ces messages où, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, où on vient faire le bilan, comme le chef de l'État l'a fait devant le Congrès, sous l'État de la Nation. Et ce n'est pas non plus les lieux ou les moments pour faire une propagande politique, électorale. Et le professeur qui est intervenu ici a très bien dit en disant que le président de la République est resté vraiment dans le cadre de son mandat. Le président a encore plusieurs mois devant lui, en tant que chef de l'État.
Mais dans son discours, alors, aucune allusion à la tenue des élections présidentielles ou législatives ou les élections en 2016. C'est ça aussi qui inquiète la population.
Mais moi, je veux vous aider, madame. Je veux vous aider parce que vous n'avez pas été précise. Même tout à l'heure, mon ami, ça n'a pas été précis. Donc, je disais que le président est resté dans le cadre de son mandat. Il fait son travail normalement. Il ne doit pas se détacher, n'est-ce pas, de son programme de travail pour commencer à aborder, n'est-ce pas, de manière singulière ou de manière particulière tel ou tel problème. En ce qui concerne les élections, vous voulez tout simplement dire, et c'est ça, en fait, la chanson habituelle maintenant, pourquoi est-ce que le président n'a pas dit s'il allait se maintenir au pouvoir ou pas? C'est ça la question que vous voulez poser.
Non, c'est pas ma question, ça c'est votre question. Alors, moi, je reprends les propos de l'auditeur.
Bon, si ce n'est pas la question, alors je n'y réponds pas.
Je répondais à l'auditeur qui dit pourquoi le chef de l'État ne parle pas des élections.
Il a bien parlé des élections. Le président de la République a bien dit.
Il met beaucoup plus l'accent sur le dialogue.
Non, il parle du dialogue, mais lisez même le texte que vous nous avez distribué. Le président a dit dans son discours qu'il va continuer à œuvrer. Il va continuer à œuvrer au courant de l'année 2016, n'est-ce pas, pour un processus électoral crédible et apaisé. Il a parlé
des élections. Mais il faut passer par le dialogue. Mais avant ça.
Oui, alors, donc, ce n'est pas à lui, le chef de l'État, d'entrer dans les détails pour dire voici comment les élections. Mais ce n'est pas. Le président, c'est ça la confusion parfois qui est faite. Le président de la République, il ne faut pas le confondre avec la CENI. N'est-ce pas? Le chef de l'État n'est pas la CENI. Ce n'est pas le chef de l'État qui organise les élections. Ce n'est pas le chef de l'État qui donne les détails sur les élections. Tout à l'heure, j'ai entendu mon ami qui a dit que effectivement il y avait des problèmes. Ils reconnaissent qu'il y a des problèmes. L'opposition reconnaît qu'il y a des problèmes. Et que de ces problèmes-là méritent d'avoir des solutions. Mais d'autre part, l'opposition, d'après ce que j'ai suivi tout à l'heure, ils disent que non, nous on ne va pas participer au dialogue, nous attendons pour voir s'il y aura de bonnes résolutions, et s'il y a de bonnes résolutions, nous allons adhérer.
Ils respectent les lois, voilà, nous allons adhérer. La Constitution.
Madame, est-ce que vous pensez que ça c'est le discours des gens qui représentent le peuple? Est-ce que vous pouvez dire, vous, qui représentez le peuple, que eh bien, nous n'allons pas nous engager dans une dynamique? Nous n'allons pas prendre, disons, des actions dans le sens des solutions qui sont attendues pour dire non, nous restons inactifs en attendant de voir ce qui va être fait. Donc je crois que là, je dirais que L'opposition manque de courage.
Alors, il a aussi parlé de l'amélioration des conditions sociales de la population. Il y a Arnold Dombeni qui dit ceci. Je ne vois pas comment en 2016, la situation sociale de la population congolaise sera améliorée, car depuis sa première élection, le président de la République déclare chaque fois au début d'une nouvelle année, année du social, mais rien n'est fait concrètement. Au contraire, le peuple congolais ne fait que s'appauvrir. Il a fait de la politique le métier le plus enrichissant et le plus convoité. Tout le monde veut devenir politicien au détriment d'autres secteurs de la vie.
Bon, déjà, ça c'est un autre débat.
On parle du deuxième défi à relever.
Oui, c'est un autre débat, c'est un défi à relever, le défi économique. Nous allons poursuivre la croissance, n'est-ce pas, les efforts de croissance. Le chef de l'État l'a dit, que cet intervenant puisse réentendre attentivement le discours du chef de l'État devant le Congrès. Il verra les détails sur les efforts en matière économique. Madame, la croissance à laquelle on est arrivé dans notre pays aujourd'hui, le Fonds monétaire l'a reconnu. Toutes les institutions au niveau international l'ont reconnu, les efforts du gouvernement actuel dans le domaine économique. La croissance, n'est-ce pas, est un résultat qui donne de la fierté aux Congolais.
Est-ce que ça se ressent dans le vécu quotidien des Congolais, dans l'assiette du Congolais, dans le panier de la ménagère?
Bon, ça c'est on ne va pas rentrer dans des considérations théoriques, madame, mais vous savez, sans croissance, il n'y a pas de distribution de revenus. La croissance, c'est un peu, il faut préparer la nourriture avant qu'on mange. Mais comment voulez-vous qu'on puisse redistribuer si on n'a pas fait des revenus? Et c'est la croissance qui est l'indicateur des revenus qui ont été réalisés par le gouvernement congolais aujourd'hui. Les résultats aujourd'hui du Congo, du gouvernement, il faut comparer par rapport au passé, il faut comparer par rapport à d'autres pays en Afrique.
Par rapport au vécu quotidien de la population aussi.
Par rapport au vécu qui s'améliore. Regardez
merci.
Aujourd'hui.
Merci, maître Tunda. Je vous redonne la parole.
Regardez l'exemple.
Je vous redonne largement en avance, oui, maître Tunda. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Jean-Jacques Mamba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Ouvira, au sud Kivu.
Président Bassou Bilou, depuis Ouvira. Le discours du chef de l'État à l'occasion du message élevé de l'an 2016 extériorise la détermination du chef de l'État pour sa dernière année 2016. La détermination lui permettra de marquer de façon positive la vie des Congolais et surtout qu'il parvient à respecter la Constitution et à apporter sa pierre angulaire au processus électoral à travers sa belle initiative du dialogue.
Alors cet auditeur estime que c'est une très bonne belle initiative, le dialogue convoqué par le chef de l'État.
Écoutez, madame, je vais répondre à notre ami d'Ouvira. J'étais à Ouvira il y a 2-3 ans, je crois. J'ai vu comment les gens vivent là-bas. Je sais que c'est pas facile. Mais j'aimerais revenir très rapidement sur des choses que j'ai entendues ici et qui me paraissent non seulement incongrues, mais irresponsables. Lorsque on parle du panier de la ménagère...
C'est quand même trop fort.
Non, je le dis parce que lorsqu'on dit que le panier de la ménagère, c'est quelque chose de théorique, eh ben c'est simplement passer ne pas comprendre ce que c'est la microéconomie. Lorsqu'on dit stabilisation du cadre macroéconomique, c'est ça de la théorie. Le panier de la ménagère, c'est ce que la femme qui va au marché vit au jour le jour, et c'est ce qui intéresse nos auditeurs, de savoir combien est payé un professeur et qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent. Ça, ce n'est pas de la théorie, ça c'est de la pratique. Donc j'aimerais bien que son Excellence puisse revérifier un peu sa matière et d'arrêter de dire que le panier de la ménagère, c'est quelque chose de théorique. Il a aussi dit quelque chose de très important, il dit que le chef d'État n'est pas la CENI. Mais c'est ce que nous nous évertuons à dire au chef de l'État ou à faire dire au chef de l'État jour et nuit, que le dialogue dont l'essence ou dont les mobiles sont traités des questions de la CENI est malvenu. Le chef de l'État n'est pas habilité à traiter les questions de la CENI. Donc ça, c'est ce que nous disons au chef de l'État. Et heureusement que son Excellence est en train de rappeler lui-même au chef de l'État que ce n'est pas le chef de l'État à la CENI et que ces questions électorales doivent être traitées à la CENI et un cadre bien défini qui est la tripartite qui permet au fait aux différentes parties prenantes au processus électoral de s'exprimer et d'échanger pour avoir un processus électoral apaisé. Donc c'est la CENI qui doit faire ce travail et je l'appuie lorsqu'il dit que le chef d'État n'est pas la CENI et c'est une vérité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque son Excellence dit que l'opposition, est-ce que c'est vraiment cette opposition qui représente le peuple?
Donc madame, vous allez observer des lois et si ça vous arrange, vous vous lancez,
je vais répondre à cela. Remarquez quelque chose qui est très formidable. Durant cette émission, nous avons eu 3 questions. Les 3 questions convergent. Les trois questions expriment les mêmes craintes, c'est-à-dire, et même celle qui m'a été posée, celle du respect de la Constitution. Le chef de l'État a identifié un problème en 2015 qui aurait, entre guillemets, fait tuer 43 Congolais. Je pense que le chef de l'État le regrette. Quel était ce problème? C'est qu'on voulait que les élections présidentielles se tiennent dans les délais. Indépendamment du fait que nous avons accumulé du retard pour les élections provinciales, les élections sénatoriales, mais tous les Congolais savent qu'en 2016, nous devons aller aux élections présidentielles. Et je crois que cette expression, qui est commune, vous l'avez ressentie au travers des trois questions. Alors, lorsque nous disons que le chef de l'État, dans ses prérogatives, peut organiser son dialogue, faire venir sa majorité, les opposants qui sont acquis au dialogue, la société civile qui est acquise au dialogue, c'est dans les prérogatives du chef de l'État. Il peut le faire. Mais cela ne nous enlève pas le rôle d'être des sentinelles. Nous sommes de l'opposition. Lorsque le gouvernement gère mal ce pays, nous disons que le gouvernement a mal géré, mais nous n'avons pas la responsabilité de la gestion. Donc nous disons aussi, comme c'est une initiative du chef de l'État, il peut aller jusqu'au bout de son initiative. Nous verrons quels sont les résultats. Et si les résultats ne cadrent pas avec la Constitution ou ne cadrent pas avec les lois, nous allons interpeller le chef de l'État. Donc ça, c'est le travail de l'opposition. Ne demandez pas à l'opposition de devenir acteur. Nous sommes des acteurs passifs parce que nous sommes comme des sentinelles, nous vérifions tout ce qui se passe dans le pays, mais il ne faut pas obliger aux opposants qui estiment que in tempero, ou je ne sais pas, il y a une expression en latin qui dit suspecto, donc pour dire que le temps ne s'y prête pas, ne nous condamnez pas parce que nous les estimons qu'en ce moment bien précis, il n'est pas opportun d'aller dialoguer, d'autant plus que tous les moyens de l'État, ces jours-ci, madame, pour terminer par là. Vous avez un ministre de la Santé qui fait une campagne du dialogue, comme si pour résoudre les problèmes de la santé, on doit dialoguer. Vous avez un ministre de l'Industrie qui, je ne sais pas de quel parti pour le moment, qui fait une campagne du dialogue. Comment est-ce que pendant une année électorale, on peut mobiliser les moyens de l'État, aller dans toutes les communes, pas pour sensibiliser sur le respect de la Constitution qui est une valeur citoyenne, parce que nous avons un ministère à la citoyenneté, là.
Vous pensez qu'on utilise les moyens de l'État?
Mais
ils,
madame,
sont quand même
membres
de la majorité présidentielle.
Mais ce sont les moyens de l'État, madame. Vous croyez qu'ils font ça avec leur poche? Vous pensez que ces ministres-là prennent l'argent de leur salaire pour faire cette campagne? Ce sont les moyens de l'État. Je peux assumer ce que je dis. Je dis très bien que ce travail est fait. Et ça m'étonne quand même qu'un ministre de l'Industrie, un ministre de la Santé s'évertue à faire une campagne concernant le dialogue. Donc nous disons, nous sommes dans une année électorale. Voici ce que nous attendons. Que le ministère de la presse avec M. Mende fasse des campagnes sur le respect de la Constitution, sur l'importance des élections, sur comment on doit se tenir, comment on peut accepter les résultats. On doit mettre les moyens de l'État pour prévenir cette paix, finalement, pour des questions électorales. Pas mettre les moyens de l'État pour aller dialoguer alors que le dialogue sera vidé, si on le veut bien, dans le cadre de la tripartite.
Merci, M. Mamba. Professeur, on a aussi pour vous une question qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Litiza Kulimouche Evariste, depuis la ville de Bukavu, province du sud de Kivu. Je me demande si ce discours n'est pas une répétition de ce qu'il a toujours promis aux Congolais, faisant de la République démocratique du Congo un pays de recommencement perpétuel, dans l'amélioration des conditions sociales qui n'arrivent toujours pas, la croissance économique ne profitant qu'à l'équipe dirigeante. Tout en protégeant les piliers de la démocratie, il serait humble au chef de l'État de ne pas vouloir conditionner la tenue des élections par le dialogue qui ne sera jamais inclusif, car seul le processus électoral stable lui permettrait, en sa qualité de garant de la bonne marche de l'appareil de l'État, de consolider cette paix retrouvée jusqu'à la remise et reprise avec son remplaçant en décembre prochain, le contraire n'étant que la perte délibérée de temps avec lequel il ne sera possible de négocier.
Professeur, cet auditeur pense que le discours du chef de l'État, c'est du déjà entendu. Il revient chaque fois sur les mêmes propos en début de chaque année.
Oui, je pense que je comprends tout à fait l'inquiétude de notre je veux dire auditeur qui vient de Bukavu. C'est compréhensible parce que on écoute les mêmes discours des politiques. Ce n'est pas seulement une spécificité congolaise. Donc, dans tous les pays, c'est pour ça qu'il y a une espèce de recul de participation, même dans les grandes démocraties, parce que les gens, ils ont l'impression que les hommes passent, mais c'est toujours les mêmes, quoi. Les discours changent, mais c'est toujours les mêmes. Et ça dégoûte les gens, ça les désenchante. Les gens ont tendance à quitter, à se désintéresser de la politique. Mais ceci dit, il y a quand même dans ce qu'il dit, beaucoup de vrai, quand on sait que la croissance économique dont on a parlé n'a pas véritablement profité jusqu'ici au panier de la ménagère, comme le soulignaient les autres intervenants tout à l'heure. Les gens continuent à souffrir et que le dernier rapport que nous avons eu montre toujours que les gens ont moins de beaucoup de Congolais, plus de 50% de Congolais ont encore moins de moins d'un dollar pour vivre par jour, ce qui est inadmissible. Et ceci dit, il faut quand même souligner les avancées notables qu'on a pu avoir. On a quand même observé que de 2014 à 2015, on a fait un bond de presque 11 places dans l'indice de développement humain. On est passé de 186 à 176e place, ce qui est quand même assez considérable. Maintenant, il faut que ça puisse aller plus loin, puisqu'on demeure toujours dans le peloton de queue. C'est-à-dire, nous sommes toujours parmi les pays à développement humain faible. Et ça, c'est inadmissible, vu le potentiel que nous avons de pouvoir être parmi les plus grands de ce monde. Et on a d'autres indicateurs macroéconomiques, je ne parle pas d'inflation, de la croissance, mais il faut, ça signifie quoi? Il faut maintenant diversifier l'économie nationale pour permettre aux uns aux autres de pouvoir profiter de cette relance. Et je crains que, malheureusement, que ça puisse ne pas aller dans le sens que notre auditeur souhaite, puisque déjà la deuxième économie mondiale, la Chine, est en difficulté, pratiquement en récession, et c'est elle qui a poussé la plupart des économies africaines, dont le Congo d'ailleurs. Alors si cette Chine est pratiquement en récession, il faut craindre que nous puissions aussi connaître les mêmes problèmes si on ne fait pas de gros efforts. Alors, je comprends aussi par rapport à l'inquiétude sur les dialogues. Évidemment, on ne peut pas conditionner les élections au dialogue. Si on doit faire à chaque fois un dialogue pour faire des élections, alors on fera presque jamais d'élections, parce que les dialogues aura un coût et les élections auront un coût aussi. Donc je pense qu'il faut dépasser ce débat-là. Et les problèmes des élections au Congo sont connus, il faut les résoudre. Et pour moi, je l'ai toujours dit, ces problèmes sont des problèmes d'ordre technique et méritent d'être réglés de manière technique. Pour la question de confiance qui manque entre les acteurs politiques, il faut bien chercher comment on en est arrivé là. Et donc si chacun fait ce travail d'introspection pour savoir pourquoi il n'y a plus de confiance entre les différentes factions de l'élite politique, alors on va faire des efforts pour corriger ça. Pourquoi l'opposition ne fait-elle plus confiance à la majorité? Pourquoi la majorité suspecte tout le temps l'opposition, etc. Donc, si on arrive à trouver des réponses à ça, chacun dans son cas, alors on fait des efforts, on peut aller vers des élections apaisées.
Merci.
Et les élections apaisées, on les fait.
Merci, professeur Alphonse Maindo. Maître Tunda, ça sera aussi votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui pensent que ce discours a été un espoir déçu?
Ça ne peut pas être un espoir déçu, parce que je l'ai dit au début de l'émission, c'était un message de vœux. Le président a parlé quelques jours avant ce message et il a expliqué toute la situation que nous vivons au Congo sur le plan économique et sur le plan social, et il a indiqué toutes les performances auxquelles nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai dit que par rapport à un point qui a été soulevé, parce que nous sommes dans la conclusion, que le panier de la ménagère, madame, ne deviendra consistante et effective que par rapport aux moyens que le gouvernement va réaliser. S'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas une politique qui a créé la croissance, il n'y aura pas de redistribution.
Merci,
et ceux qui ne comprennent pas ça, il faut qu'ils revoient leur copie.
Merci, Maître Tunda. Je suis désolé, Maître Tunda, je suis vraiment désolé. Jean-Jacques, un mot en guise de conclusion.
Écoutez, je pense que nous sommes dans une démocratie. S'il y a des propos qui ont été tenus qui n'ont pas été à leur place, je vais ici m'excuser. Mais bon, je ne vais pas reparler du panier à ménagère, parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite une émission entière. Pour revenir au discours du chef de l'État...
Le chef de l'État promet la création de nouveaux emplois, l'augmentation du pouvoir d'achat...
Le chef de l'État, pendant 14 ans, a promis cela. Vous savez, il est quand même au pouvoir depuis 2001. Nous avons gagné 11 places en 2014 et 2015. Ça pose la question de savoir de ce qui a été fait entre 2001 et 2013, par exemple. Donc, si en une année, nous avons pris 11 places, alors que nous avons 15 milliards que le chef de l'État ne retrouve pas, parce que c'est des fuites fiscales. Donc, s'il avait retrouvé ces 15 milliards pendant 14 ans, on serait peut-être à la 10e place mondiale. Donc,
Merci Jean-Jacques. Professeur, un mot pour conclure.
Je conclurai en citant Spinoza, qui dit que la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, c'est un état d'esprit, une volonté de bienveillance de confiance et de justice. Voilà.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.